Facile.
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, nous n'avons pas vu Monquette, film de François Damien, ni Demi-sœur, la comédie française du moment. Mais on a quand même vu d'autres films, notamment toi, Marine, t'as fait une sorte de rattrapage.
Oui, moi je vais vous parler de deux films qui étaient en effet un petit peu inratables, je pense. Goldange, avec Marion Cotillard, qui était en sélection à Cannes, ainsi que, évidemment, Deadpool 2, qui caracole en tête du box-office en ce moment.
Et puis toi, Manu, un film en salle depuis le 30 mai.
Oui, retour à Bolène. Bolène, petite ville qui se situe dans le Vaucluse. Hein, donc, premier long métrage de Saïd Amiche, un producteur assez connu, hein, notamment de, je crois, de Much Love.
Oui, film de Nabil Ayouch, oui, dont on a parlé dans cette émission. Et puis, on ira un peu plus loin que Bolène avec moi. On ira du côté du Pakistan avec un film plutôt intéressant d'un britannico-pakistanais, on peut le dire comme ça. Et puis, je vous parlerai aussi d'un film qui se déroule au Groenland, fait par un Français. Il s'agit d'Une année polaire. Et ce voyage au Groenland avec un instituteur danois nous donnera l'occasion de jouer avec des films qui se déroulent dans le grand froid. Ce sera le blind test de cette émission. Il faudra deviner, à l'écoute de 5 extraits, les titres des films donc, qui se déroulent dans des conditions climatiques pas forcément très chaudes. Cinérama débute avec effectivement un film qui était très attendu, avec beaucoup de publicité partout. C'est Deadpool 2, 1 600 000 déjà spectateurs dans les salles.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je suis l'enfant de la guerre. Je suis né dedans. Les gens croient comprendre la douleur. Ils savent même pas ce que c'est. Ta pire douleur à toi, c'est quoi? Ce serait peut-être celle qui fait de toi une machine plutôt qu'un homme.
Attendez, non, stop!
Non, mais putain! Dale, pourquoi il manque les effets spéciaux? Son bras, il est censé être en métal. C'est pas comme s'il suffisait d'effacer une moustache. Et merde, je vais le faire moi-même.
Alors celui qu'on entend parler, c'est évidemment Deadpool, plutôt Wade Wilson, qui donc dans Deadpool 2, roucoule tranquillement avec Vanessa, sa stripteaseuse de copine, rencontrée, si vous avez suivi, dans Deadpool 1. Son boulot est dorénavant de descendre mafieux, proxénète et vendeur d'armes, et ils comptent bien tous les deux fonder une famille. Mais un jour, l'une de ses cibles lui échappe et tue sa femme. Deadpool perd goût en la vie, mais il est finalement recueilli par les X-Men. De fil en aiguille, il se retrouve aux prises avec un enfant mutant obèse très en colère, un homme venu du futur pour le tuer et une nouvelle équipe de mutants qu'il baptise X-Force parce qu'il juge que X-Men, c'est un peu sexiste.
On va former un groupe de la mort qui tue. On veut des gros bras, moralement élastiques et assez jeunes pour aligner des suites pendant 10-12 ans. J'ai nommé la X-Force.
Ça sent le réchauffé ou c'est moi?
Excellente remarque. Et maintenant, allons leur niquer la gueule. La justice, c'est pas toujours propre. Et si tu veux te battre pour le bien, parfois, faut te salir les doigts. C'est pour ça qu'on donnera jamais l'Oscar à un film de boule.
Oh. C'est là que je m'en veux d'avoir arrêté les études.
Le buzz se justifie pleinement. Beaucoup, beaucoup.
Putain, y a plus de raison de faire un 3.
On aurait tort d'essayer. On s'arrête aux 2 et c'est une tuerie.
Voilà, alors comme vous pouvez l'entendre, ça vole aussi haut que le premier. Je pense même que c'est pire au niveau humour.
Mais il y a quand même beaucoup de mise en abîme, c'est ce qu'on entend.
Exactement, et oui, disons-le tout de suite, quand même, c'est réussi. Hein, c'est clairement réussi. Alors, le scénario est un petit peu plus élaboré que celui du premier Deadpool. En même temps, il semble un petit peu poussif. Alors, le rythme n'est pas toujours très soutenu, moins que dans le 1 du moins. Mais il y a clairement des scènes vraiment cultes. Il faut dire aussi qu'il y a énormément dans les dialogues de références, de jeux de mots, et c'est compliqué de traduire tout ça, de trouver des équivalences dans les sous-titres. Et c'est peut-être aussi ça qui rend l'ensemble du film un petit peu plus mou pour nous, Français. Alors heureusement, le mauvais esprit et les piques envers l'univers Marvel demeurent aussi présentes. Hein. L'impertinence, pas toujours très subtile, qu'on avait adorée dans Deadpool 1 est toujours là, elle aussi, malgré quelques tentatives de scènes d'émotion dont ça, pour le coup, ma foi, on s'en serait bien passé. Paradoxalement, il y a aussi une surenchère de violence, ça découpe des têtes et des bras dans tous les sens, mais cette violence est toujours justifiée par un comique de situation. Et surtout, c'est là que le film est réussi, il arrive encore à nous surprendre, et ça, ça n'a pas de prix. Par exemple, qui aurait osé mettre dans la même BO Céline Dion et Skrillex? Et le pire, c'est que ça marche vraiment très bien. Alors, autre aspect qui était déjà présent dans le 1 et qui marche toujours aussi bien, eh bien c'est, comme tu le disais, cette mise en abîme permanente, le fait que le personnage s'adresse à nous et qu'il commente son propre film.
C'est fini pour toi, pauvre connard.
Là, c'est le dialoguiste qui s'est pas foulé.
Deadpool 2, c'est donc une réussite et je pense que tant mieux parce qu'on est clairement parti pour le 3, hein, donc ça aurait été dommage que ça soit déjà nul au deuxième. Dommage simplement qu'il y ait autant de personnages féminins intéressants et qu'elle n'ait que deux répliques, ça c'est un petit peu dommage. En revanche, vraiment faire revenir Josh Brolin en Terminator vieillissant, ça c'était, mais je pense, la meilleure idée du film. Ça, c'est très réussi.
Eh bien, merci. Il y a aussi des pics. Tu parlais des pics envers l'univers Marvel, mais il y en a aussi
envers DC Comics.
Voilà, ouais. DC Comics qui est traité de studio sombre.
Clairement, tout le monde en fait en prend pour son grade, hein, et c'est ça justement qui est aussi jouissif. Mmh.
Et peut-être un 3 un jour pour Deadpool, donc un des grands succès actuellement dans les salles. Ce sera sûrement pas le cas de Retour à Bolène, mais c'est un film qu'on a vu.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors, présenté au dernier festival méditerranéen, Retour à Bolène est le premier long métrage réalisé par Saïd Hamish, connu jusqu'ici en tant que producteur de Much Loved et Volubilis. Alors, sans aller jusqu'à l'autofiction, il paraît évident que le film s'avère un projet très personnel, une sorte d'introspection d'un cinéaste citoyen revenant sur une partie de sa vie où il va devoir faire un choix entre le retour au bercail ou se couper définitivement de son environnement familial. Alors, l'histoire a beau être d'une simplicité édifiante, hein, parfois empêtrée quand même dans des mécanismes narratifs prévisible, elle n'en reste pas moins touchante. Nassim, alors la trentaine, hein, vit à Abu Dhabi. Il incarne l'exemple de la réussite d'intégration. Il travaille dans la finance et s'est détourné en partie de sa culture d'origine, à commencer par la religion musulmane. Alors avec beaucoup d'appréhension et surtout après quelques années d'absence, il revient avec sa compagne américaine à Bolène, dans le sud-est de la France, le Vaucluse je crois, où il a grandi. Alors Nassim doit alors se confronter à son passé, à sa ville plongée dans la misère sociale, à sa famille et surtout à son père à qui il n'adresse plus la parole. Alors tout tend d'ailleurs à cette rencontre suggérée au début par omission mais appuyée par un scénario trop visible sur le coup. Alors avant cet épilogue un petit peu décevant car finalement très conventionnel, Saïd Hamish dresse une cartographie d'une ville sinistrée saisissante de réalisme. Ancien bastion du communisme, hein, Bolène, comme beaucoup de petites villes du Sud, qui a connu une forte immigration, a basculé progressivement à l'extrême droite après des années de mauvaise gestion. Alors il s'agit de... J'ai cru que c'était, que c'était faux, en fait, hein, parce que c'est pas le Front National, c'est la Ligue du Sud, parti proche du FN fondé en 2010 par Jacques Bompard, qui a pour but l'enracinement local et la défense du patrimoine national. Alors les premières cibles de cette idéologie xénophobe demeurent les Maghrébins. Pour cette raison, Nassim a fui ce pays qui s'est enlisé dans la pauvreté. Il se rend compte que rien n'a bougé, ni ses amis, toujours face au même problème, ni sa famille, repliée dans un système religieux qu'il semble repousser.
I'm glad that you're coming with me.
You nervous?
Tu sais pas qui est le FN à Bolène? Même pas FN, la Ligue du Sud. Monsieur Obnard.
Mais il était pas au PC, lui?
Visiblement, il a fait le tour par derrière. Bolène, Mornas, Roquemort, Orange, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus que du chômage, il n'y a plus que du RSA et du pinard. Puis on se retrouve avec des milliers de maghrébins analphabètes, avec leurs femmes et leurs enfants qui vivent dans des cités pourries.
Je veux pas être un arabe de Bolène.
T'as même pas idée à quel point on sait tout ça. Et qu'on t'accepte et qu'on t'aime.
Tu vas prendre du vin?
Non mais t'es sérieux là, devant maman? Si les mecs ils ont 50 piges, ils fument même pas devant leurs parents, enfin je sais pas, c'est notre culture.
They won't let me drink so that I don't hurt my mom.
Papa, you never drink at lunch. Mesti aïd farmdan, mesti aïd fil'aïd, mesti fkarna.
Saïd Hamish ne fait pas de son personnage principal non plus un être exemplaire. Hein. Il le présente dans toute sa complexité. Alors comme un être fermé, parfois très égoïste, une excuse un peu facile pour rompre avec son passé. Le réalisateur signe un film juste, dans tous les sens du terme, hein, au sens positif d'abord. Hein, Retour à Bolène frappe par la crédibilité des situations et des personnages, évoluant dans un environnement déprimant, très bien capté par la caméra du réalisateur, qui offre quelques images marquantes d'une ville, on va dire, dortoir, hein, un désert culturel et économique. Mais dans son acceptation, alors on va dire moins noble, hein, cette chronique sociale assez ramassée, 1h07 à peine, est aussi un film juste, au sens détriqué. Il manque sans doute de moyens, d'une écriture cinématographique. Alors le naturalisme, hein, une convention étouffante de ce genre de cinéma, incarne les qualités, les limites de ce type de cinéma pour qui la forme se doit toujours de coller au plus près du réel. Alors ce qui paraît logique, mais engendre aussi un peu de frustration. Alors sinon, bon, comme d'habitude dans ce type de film, hein, les comédiens, certains professionnels, d'autres amateurs sont remarquables, hein, et toutes les scènes avec la famille sont touchantes, sans verser dans le manichéisme. Alors en revanche, bon, un petit bémol, la rencontre entre Nassim et son ancien prof d'histoire, hein, qui est passé de la gauche communiste à l'extrême droite, sombre un peu dans les pires travers du cinéma engagé, hein, présentant évidemment le prof comme un sale type ayant retourné sa veste. Alors c'est pas faux, hein, mais c'est un peu réducteur quand même. Saïd Hamiche, qui aborde toujours les conditions sociales des migrants maghrébins en France dans ses productions, hein, que ce soit ses longs métrages ou ses nombreux courts métrages. Alors poursuit sa thématique, hein, dans ce premier long métrage inégal mais très attachant.
Et c'est dans les salles depuis le 30 mai, comme un film qui, cette fois-ci, ne va pas nous emmener au Groenland. C'est une année polaire de Samuel Collardet qui nous donnera l'occasion de jouer au Blind Test.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors je ne m'en cacherai pas, un film qui se déroule dans le Grand Nord, mais pas celui des ch'tis, hein, à l'approche du cercle polaire plutôt, eh bien à toute ma sympathie, même mon attention, a fortiori quand on franchit la limite du cercle polaire et qu'on pénètre dans des contrées hostiles où si le soleil est radieux, eh bien le froid est glaçant. Et si le blizzard arrive, eh bien mieux vaut se réfugier dans un igloo. C'est le cas de Une année polaire qui se déroule au Groenland, le pays vert, hein, comme on aime si bien le rappeler, mais qui franchement, quand on le regarde 10 mois de l'année, est plutôt blanc. Alors même les ours, hein, ils sont blancs. Alors il s'agit en fait d'un film français, celui de Samuel Collardet, à qui l'on doit Tempête dernièrement. Un film remarqué sorti il y a 2 ans dans lequel il s'intéressait au monde de la pêche et à la famille. Alors ce n'est pas la première fois qu'on voit un film français qui se déroule au Groenland. Nous avons eu en 2016 le bien nommé Le Voyage au Groenland, qui envoyait alors 2 Français dans le Grand Nord, l'un aux côtés de son père, l'autre aux prises avec ses interrogations. Un film modeste qu'on devine difficile à faire, hein, à cause du froid. Un film remarqué, là encore, qui nous éclaire sur la vie des Groenlandais, dont on ne sait à peu près rien. Enfin, j'imagine, la majeure partie du temps ne s'y intéresse pas. Hein, on est d'accord ? Voilà. Alors, curieusement, les comédies se déroulent souvent là où il fait chaud, l'histoire de se mettre un peu en bikini. En anorak, bonnet, moufle et peau de phoque, les scénaristes et dialoguistes prennent moins la peine de faire rire. Une année polaire n'est donc pas une comédie, hein, mais n'est pas non plus un drame. C'est donc une comédie dramatique et plutôt réussie. On y suit Anders, un instituteur danois, qui a décidé que, eh bien, pour son premier poste, il irait au Groenland, terre rattachée à la couronne danoise. Alors, les Danois tentent d'y imposer durablement leur langue et assurent donc l'instruction des Inuits. C'est un enjeu politique. Alors, lui, Anders, il s'en moque un peu. Il est plutôt dans un syndrome de fuite. Il refuse de reprendre la ferme familiale comme son père le voudrait. Mais là où atterrit le jeune instituteur, à l'est du Groenland, eh bien, il n'y a que 80 habitants et quelques élèves. Alors, si encore ils étaient motivés, ces élèves, et captivés par l'école, eh bien, ça irait, mais ça n'est pas le cas. Hein. Côté professionnel, il y a du boulot, et il y en aura aussi pour se faire intégrer par la population, qui, mis à part l'employé de la mairie, eh bien, n'est pas très commode avec le Danois en général, et Anders en particulier. Le film expose très simplement ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire un personnage en fuite et les conséquences de ses choix, aux prises avec une culture qui n'est pas la sienne, loin des siens et dans un climat on ne peut plus rude. Bref, Anders va vivre une désillusion. En suivant un fil narratif simple, Samuel Collardet parvient à nous intéresser en liant l'humain au spectaculaire de ses paysages et la rudesse qu'il renferme. Alors même si nous ne sommes pas pour autant dans un documentaire de National Geographic, hein, la dimension ethnographique, elle, est bien présente. Le français nous donne à voir les parties de chasse aux phoques, les parties de pêche, la transmission de ces pratiques, des us et des coutumes et de cette culture inuite qui a tendance à se perdre. C'est ce qu'on apprend au fil du film. Alors, nous parler des Inuits au travers d'un personnage qui est arrivé avec ses préjugés, ses clichés, ses ambitions, concourt à extrapoler sur un autre sujet bien plus universel. C'est la rencontre et l'entente entre les hommes. Alors, il y a beaucoup de délicatesse dans Une année polaire, une patience documentaire à nous montrer les gens, leur joie ou leur tristesse. vitesse. C'est-à-dire qu'on est pris dans certaines séquences au cœur de scènes qui ne paraissent alors rien à voir avec la fiction et qui pourtant y ressemblent pleinement. C'est, semble-t-il, le style du réalisateur français qui tourne avec des comédiens non professionnels. Alors, on approche la patte de Stéphane Brisé avec En guerre ou La loi du marché. À ceci près qu'ici, eh bien, le réalisateur ne se situe pas au plan politique ou social. Il embrasse de son regard un village et ses habitants qui sont eux-mêmes dans une sorte d'absolu qui serait la nature groenlandaise. Alors, tous ceux qui aiment le Grand Nord, les grands espaces y trouveront leur compte, hein, comme ceux qui cherchent à en savoir davantage sur les Inuits. Il faut bien admettre que le scénario court après des prétextes pour nous dévoiler l'univers de ces hommes. La chasse à l'ours, les chiens de traîneau, les aurores boréales, vous avez droit à tout ça. Et curieusement, on a l'impression d'un monde un peu figé. Alors, tandis que le voyage au Groenland, l'autre film français dont je vous parlais tout à l'heure, avait une autre vision du pays, plus instantanée, sur les habitants en prise avec le monde moderne. Cette vision ici est diluée, le réalisateur préférant se raccrocher à une vision plus universelle. Il va par exemple omettre de parler de l'alcoolisme persistant au Groenland et du taux de suicide important pour se concentrer sur les rapports humains, ce qui les rapproche et ce qui les sépare. Voilà, autant vous dire que c'est un film que je recommande. À noter que le réalisateur est allé plusieurs fois au Groenland pour préparer son film. Il a rencontré de nombreux instituteurs qui sont aussi dans des petits villages pour ensuite construire son scénario. Et c'est vrai que ce que je vous disais, c'est qu'il y a une espèce de glissement constant entre le documentaire et la fiction, ce qui fait qu'on est finalement dans une fiction, mais très très bien documenté. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et l'avantage, c'est que ça surjoue moins qu'un Stéphane Brisé, par exemple. Quand Vincent Lindon, qui est ultra connu, interprète un syndicaliste, hein, pour prendre un film actuellement sur les écrans. Eh bien, ce film qui se déroule au Groenland nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie des films qui donc se déroulent dans le grand froid. Ça pourrait être facile. On va commencer, je pense d'ailleurs, très facilement avec un premier extrait.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, les absorber. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. C'est une nation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir.
Finir quoi ?
Finir son imitation de nos chiens.
Alors, Magritte disait « ceci n'est pas une pipe », ici on entend que ceci n'est pas un chien. Et
de... En tout cas, on n'est pas d'accord avec Manu sur qui l'a dit en premier, mais je suis pratiquement sûre que moi j'avais eu le temps de finir pour le coup, de dire « The Thing » avant lui.
Un film de John Carpenter et non pas le remake récent qui était pas très bon.
Pas très bon.
Film de 82. Alors, deuxième extrait.
Je te laisse la camionnette. Je prends la Syrah. On la partage. Et tu la partages comment, la bagnole ? Hein, gros débile ? Avec une putain de tronçonneuse ?
Il y en a un des deux qui paie à l'autre la moitié de ce qu'elle vaut.
Attends, ça, putain, jamais. T'as vu ça, connard ? J'ai pris une balle, putain ! J'ai pris une balle dans la gueule ! J'ai été chercher ce putain de pognon et j'ai pris une balle dans la gueule ! Merde, je suis debout depuis 36 heures, putain de Dieu ! Et je prends cette putain de voiture, cette bagnole est à moi, espèce de putain d'enculé. Je peux farcir tes conneries depuis une semaine. On est quitte ?
L'imprévisible ou prévisible, Steve Buscemi d'ailleurs, on ne sait pas trop.
Le Forgo.
C'est bizarre en version française quand même.
C'est bizarre, mais quand même.
J'ai jamais entendu.
Avec une patate dans la bouche, ça le fait bien. Donc ça a été trouvé, c'est évidemment Fargo, des frères Cohen, film de 96. Allez, un troisième extrait.
Si j'en juge par ces affiches, il devrait être quatre. Je vous ai vu en charger que deux.
Oui, le second et le troisième. Et il y en a un autre qui se trouve déjà sur place et qu'on ne m'a pas encore payé.
La prime est la même qu'il soit mort ou vivant. Mais vous, si j'ai bien compris, vous êtes spécialiste en cadavres.
Bon, ça coûte trop cher de les prendre vivants. Et c'est pour ça que la loi se montre compréhensive. Et puis, c'est bien plus dangereux. Ces gens-là sont contre la morale, contre Dieu, contre l'ordre et contre le genre humain. Non, c'est une bonne action de les tuer. Puis je ne veux pas prendre de risques.
Alors, c'était peut-être moins facile, mais tu l'as trouvé, Manu.
Et donc, c'est Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant qu'on ne risque pas d'entendre. Hein, un film de Corbucci qui date de 68.
Parce que Trintignant joue un muet. Ouais, voilà.
Et certainement, je dirais pour moi, le plus grand western italien avec Il était une fois dans l'Ouest.
C'est pour ça que je l'ai casé dans ce blind test. Alors, maintenant, un film français.
Vous espérez intégrer le FBI?
Non, mais la police canadienne, j'aurais adoré. Le concours est très sélectif. Ils expliquent comment faire des moulages d'empreintes dans la neige. Il faut de l'eau bouillante et du soufre. La neige fond et le choc thermique fixe le soufre instantanément.
Oui, et alors?
Et alors? C'est le moulage d'empreintes des raquettes de Candice dans le No Man's Land. Elle est beaucoup trop profonde et correspond au poids de deux personnes comme si quelqu'un l'avait portée jusque-là. J'ai montré la marque rouge sur la joue là au médecin légiste. Pour lui, c'est pas une lividité, c'est une marque de con.
Pourquoi vous venez dire tout ça à moi?
C'est Jean-Paul Rouve.
Oui, c'est Jean-Paul Rouve, Marine.
Oui, c'était pas évident, mais c'était Poupou Pidou.
Oui.
C'était pas mal d'ailleurs.
De Gérald Eustache Mathieu, qui a été tourné dans la ville la plus froide de France, à Moutte, dans le Jura. Oui, paraît-il. Allez, dernier extrait facile.
À ceux d'entre vous qui osent affronter leurs rêves, Adventure Consultants offre ce qu'il n'est pas possible de décrire avec des mots. Et pourquoi on ne le décrit pas dans la brochure? Parce que c'est surtout de la souffrance. En deux mots, les gars. Les êtres humains ne sont tout simplement pas faits pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Alors une fois qu'on sera là et qu'on aura passé le col sud, nos corps vont littéralement mourir, j'insiste, littéralement mourir. C'est pas pour rien que ça s'appelle la zone de la mort. Alors voilà la question, peut-on vous conduire jusqu'au sommet et vous ramener en bas avant que ça se produise?
C'est un film de 2015, réalisé par un Islandais, Balthazar Kormákur.
Ah, c'est c'est une catastrophe, c'est ça?
Oui.
Qui est sorti.
Et qui raconte les expéditions, les premières expéditions sur le toit du monde dans les années 90.
Haute altitude, altitude extrême.
Non,
Everest. Altitude ultime.
Everest, tout simplement.
Everest, c'est ça.
C'est Everest, film avec Jason Clarke, Jack Gyllenhaal, qui joue un personnage absolument étrange, et Josh Brolin. Film que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial Grand Froid. On passe à la suite et on écoute maintenant la chronique de Marine sur un film avec Marion Cotillard.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Ma gueule d'ange, c'est maman.
Gueule d'ange, c'est Ellie qui vit avec sa maman Marlène, une jeune femme pas méchante mais qui a quelques problèmes de mec et d'alcool et qui se fait quitter par son mari le jour de son mariage quand il la surprend en train de le tromper pendant la fête. Bon, c'est vrai que ça se comprend. Alors Marlène se laisse aller, elle devient de plus en plus démissionnaire jusqu'au jour où elle disparaît complètement, laissant son enfant livré à elle-même. Totalement traumatisée par cette mère abandonnique, c'est le terme, la petite fille reproduit ses comportements, essaye de se trouver un père de substitution et jette son dévolu sur un jeune forain qui n'a rien demandé à personne.
Elle va rentrer quand?
Marlène, putain, mais réponds!
Comment tu t'appelles?
Polio. Ils sont tes parents.
Ma mère, elle est plus là.
Crois pas que je pense pas à toi. Je pense à toi tout le temps. Ta maman t'aime fort.
Alors j'espère que la musique n'est pas aussi présente dans le film parce que ça
elle
pourrait être...
Elle est exactement aussi présente, absolument toutes les scènes d'émotion sont surlignées de cette façon-là.
On va nous en parler.
Alors Gueule d'ange, c'est le premier film de Vanessa Philo, présenté à Cannes en sélection à certains regards, mais non, il n'a pas eu la caméra d'or, hein, ce prix qui incombe au meilleur premier film. Et pour cause. Alors déjà, le principal souci du film, c'est sa comédienne principale justement, Marion Cotillard, que j'avais découverte dans Les Jolies Choses. En 99, adaptée du livre de Virginie Despentes. Et franchement, à l'époque, je trouvais que dans ce film où elle interprétait deux sœurs que tout oppose, elle était véritablement catastrophique. Et bien, dans Gueule d'ange, elle renoue avec un personnage sensiblement identique et surtout avec le même jeu, ou plutôt le même surjeu, celui d'une nana paumée et bien vulgaire auquel on ne croit pas une seconde. Et puis alors, je pense qu'il y a un souci, c'est qu'il faut arrêter de faire jouer à des bourgeoises des rôles de prolétaires, ça ne marche pas. On ne fait pas jouer à une femme qui est égérie Dior, qui a une peau parfaite, pas de cernes et des dents impeccables, le rôle d'une nana qui picole toute la journée. Si on veut une actrice qui semble fracassée par la vie, on prend Corinne Maziero, quoi. Alors voilà, donc comme Marion Cotillard est objectivement une très bonne actrice, je me dis que c'est peut-être un choix de sa part de surjouer, mais j'ai du mal à comprendre. Et puis la vision de la poufiasse dans le film n'est ni moderne ni ancrée dans la réalité. Marion Cotillard semble délaissée par la réalisatrice, mais alors totalement ou très mal dirigée pour livrer une interprétation aussi caricaturale. Dans Rock'n'Roll, elle prend l'accent québécois. Chez les Frères Dardenne, elle prend l'accent belge. Dans ses rôles américains, elle parle à la perfection. Et là, elle joue une cagole de Marseille. Elle n'est pas foutue de prendre l'accent du Sud. Non mais je ne comprends pas. Et puis, il n'y a pas qu'elle, hein, les autres actrices, c'est pareil, l'enfant y compris. Toutes ont une présence physique, mais alors dès qu'elles ouvrent la bouche, on n'y croit plus. On ne croit pas à ces personnages, on ne croit pas à leur souffrance, à leur relation. Donc malheureusement, l'empathie ne marche pas. En revanche, le film met joliment en scène l'errance, hein, encore heureux, vu la surenchère de glauque à laquelle il nous oblige à assister. Les lumières sont très belles, la petite fille est filmée dans des décors aussi abandonnés qu'elle. Il y a de très jolis plans, de détails, des plans sur des détails de la vie. Sauf que bah, je me dis que c'est peut-être uniquement grâce à son chef-op et pas à la réalisatrice. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien à sauver dans ce film. Non, c'est malheureusement un échec en tout point. Mais on sent que ça aurait pu être un bon film. Dommage.
Merci Marine. Maintenant, eh bien, direction comme promis, du côté du Pakistan avec My Pure Land.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Que diriez-vous d'un western sauce pakistanaise 200 hommes armés contre une poignée de femmes cherchant à défendre leur maison qu'une loi patriarcale voudrait leur enlever. Voilà le pitch de Pure Land, un film britannico-pakistanais qui commence avec des coups de feu dans tous les sens. Alors on a l'impression d'un remake de Fort Alamo, à ceci près que nous n'allons pas rester dans la maison assiégée. Et c'est là le choix de mise en scène de Sarmad Masood. Avec un montage alterné, le réalisateur britannico-pakistanais va brouiller temps et lieu, un procédé rendu nécessaire pour nous extirper du film d'action et nous faire entendre l'injustice qui règne au Pakistan entre vieilles lois, corruption et une certaine forme de bêtise. Alors le point de départ de My Pure Land, c'est une histoire vraie qui a vite fait de devenir un scénario de cinéma, l'histoire de Nazo Darejo, une femme pakistanaise qui avait défendu sa maison et sa terre contre 200 bandits. Eh oui, 200. Alors avant d'entrer dans le film, un carton nous prévient qu'au Pakistan, eh bien, la dispute autour des terres est un sujet récurrent qui déclenche beaucoup de violence. Alors que les femmes, plus que les autres, sont touchées par ce sujet qui atterrit davantage en confrontation armée qu'en procès équitable dans un tribunal. Nous sommes donc dans un endroit isolé du Pakistan. Alors même si on ne comprend pas bien pourquoi au début du film, eh bien Nazo, qui a alors 18 ans, prend les armes aux côtés de sa jeune sœur et de sa mère pour défendre sa maison et avec un succès relatif. Hein. Nous sommes dans une rhétorique de western. On voit les innocents assiégés et les méchants avec des têtes de méchants à l'extérieur. Alors ça pétarade de partout. Le courage, l'impuissance ou la lâcheté apparaissent tour à tour à l'écran. On pourrait même parler de films de cow-boys tant on voit de vaches à l'écran. Alors c'est assez surréel d'ailleurs puisqu'elles paraissent alors là complètement insensibles aux coups de feu. Et c'est là où la magie du cinéma finalement, on se dit mais bon, dans les conditions de tournage, ils ont dû... Enfin, il n'y avait sans doute pas de bruit donc elles n'étaient pas perturbées. Mais quand on entend les coups de feu, on se dit que c'est pas possible qu'un animal reste aussi stoïque. Plutôt que de se concentrer sur un huis clos, eh bien le réalisateur va faire de constants allers-retours entre la maison et le passé de personnage, un moyen de faire éclater la figure absente du père, un homme qui, selon le temps du film, eh bien, est capable de parler de l'honneur et du Coran, avant de parler aussi de valeurs, celles qui l'ont poussé à éduquer ses filles comme des combattantes dans un Pakistan où la justice n'est enseignée qu'à l'école et encore. Alors à force de va-et-vient, la détermination et la colère des jeunes femmes qui défendent coûte que coûte leur maison eh bien, est davantage compréhensible, tout comme la situation de la femme au Pakistan et du pays en général, grâce aux nombreuses séquences entre le père et ses filles, eh bien, le réalisateur se permettant même des traits d'humour dans un film bon, largement dramatique. Curieusement, alors que les va-et-vient temporels devraient rythmer efficacement le récit et stimuler l'action, eh bien, le procédé finit par dévitaliser le récit de l'assaut et conduit le spectateur à l'épuisement. Les nombreux coups de feu tirés de partout, sans victime, m'ont apparu parfois un peu grotesques. Alors même si un personnage de bandit explique qu'il est là pour faire peur mais pas pour être tué, bon c'est un jeu d'intimidation, pourquoi pas. Hein. Alors toutefois, mis à part ce manque de rythme, hein, on retient l'exposition du combat féministe de cette pakistanaise et le cinglant jugement sur le pouvoir vérolé. Le réalisateur n'est pas tendre hein, vis-à-vis de la police, à tel point qu'on penserait même être en face d'une caricature. Donc on finit par oublier ses maladresses, y compris le plan final dont bon, je n'en dévoilerai pas la forme, mais c'est bon, quelque chose d'assez surprenant et peut-être un peu décevant. Mais en tout cas, My Pure Land de Sarmad Masood est dans les salles depuis le 30 mai.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors si la semaine prochaine j'aurais préparé un blind test, je n'ai aucune idée de mon sommaire, mais toi oui, Manu.
Oui, j'irai voir un documentaire hein, sur l'actrice Eddie Lamar, hein, qui aurait, paraît-il, inventé le Wi-Fi, une féministe avant l'heure, et puis aussi une reprise d'un film d'Ettore Scola très connu, Nous nous sommes tant aimés.